Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie pour le dernier numéro 2024 de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous êtes fin prêt pour 2025. J'en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà une très bonne année, malgré les incertitudes politiques et économiques que connaît notre pays. En ce qui concerne la vie musicale, en revanche, de très beaux moments s'annoncent, et ce, dès la première semaine de janvier. Pour vous les présenter, je peux compter en 2025 comme en 2024 sur Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités d'honneur dans cette émission, deux éminents représentants des pupitres de cuivre de l'Orchestre National du Capitole, le trompettiste Hugo Blacher et le tromboniste Fabien Dornic. Avec leurs camarades Louis Aunois et Thomas Pesquet, ils donnent le concert Éclat Cuivré lundi prochain, le 6 janvier, à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre de la belle saison des Clés de Saint-Pierre. Nous allons en parler longuement avec eux en seconde partie de ce numéro. Dans les médias, retour avec Serge sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les trois et mes meilleurs vœux à vous aussi pour l'année Merci. 2025. Nous avons donc deux musiciens de l'Orchestre du Capitole avec nous aujourd'hui et nous allons justement revenir d'abord sur le concert qu'a donné l'ensemble symphonique toulousain le jeudi 19 décembre à la Halle au Grain. Il était dirigé par Tugan Sokiev. Inutile de préciser que la Halle était pleine ce soir-là, d'autant plus que tout le programme était dédié à Tchaïkovski avec des extraits du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette, le bonbon idéal avant Noël. Serge.
Absolument, il faut redire les liens qui sont toujours très intenses entre les musiciens et Tugan Sokiev et entre Tugan Sokiev et le public. Dès qu'il est apparu sur le plateau de la Halle au Grain, il a été accueilli par des applaudissements nourris. Le public était heureux de le retrouver, donc belle soirée de retrouvailles en quelque sorte. On a revu Tugan Sokiev dans ce qui est un peu son ADN musical, hein. La musique de Tchaïkovski, bah, il connaît ça, il a été nourri par cette musique-là. On a pu constater que dans les deux extraits des deux ballets les plus célèbres, Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette, eh bien, il insuffle à l'orchestre à la fois l'esprit et la lettre de chaque épisode. Mais alors, ce qui est frappant, c'est qu'il intervient sur chaque nuance. On a l'impression qu'il va chercher les nuances au sein de l'orchestre. Donc ça a été un beau moment, vraiment un très beau moment, avec tout d'abord Casse-Noisette qui ouvrait la soirée, avec à la fois tendresse et dynamisme, et puis chaque épisode du divertissement était extraordinaire, avec la danse espagnole, surtout la danse chinoise, la danse russe, et puis le relief caractéristique qu'il obtient de l'orchestre, avec la plus célèbre des séquences peut-être, la valse des fleurs, qui là revêtait une suprême élégance. Et puis on admire, et c'est le moment de le dire avec, en présence de deux musiciens de l'orchestre, la qualité des solos. Et il y a beaucoup de solos des musiciens, trompettes d'ailleurs, flûte et de nombreux autres, et donc de très beaux moments. Et puis avec le Lac des Cygnes, alors le drame apparaît plus présent. Là aussi, on a vu comment Tugan Sokiev manifestait un soin du détail très important, avec en particulier une série instrumentale impressionnante. Ça commence par le célesta, puis la harpe, et puis suivi par le violon, le violoncelle, des solos tous magnifiquement joués par les musiciens. Et puis donc, le crescendo de la scène finale qui, ce soir-là, atteint un sommet éblouissant, qui stupéfie vraiment le public, enthousiaste le public déchaîné. Donc ça a été un très beau moment. Et puis ensuite, il y a eu un petit élément auquel on ne s'attendait pas. Il se trouve que c'était le départ à la retraite d'un des musiciens de l'orchestre, Yves Sapir, qui a longtemps occupé les fonctions de délégué syndical de l'orchestre.
Oui, c'est une figure de l'orchestre, Yves Sapir.
Ah ben absolument. Et donc, Tugan Sokiev est arrivé avec un bouquet de fleurs qu'il lui a offert, c'est la tradition. Et puis, il a pris la parole et il a dit des choses très importantes et d'actualité. D'abord, il a insisté sur les liens étroits, presque familiaux, qui existent entre les musiciens. Et puis surtout, ensuite, il a avoué son inquiétude concernant l'avenir, vu sous la perspective des diminutions nationales envisagées pour les subventions. Et là, il a été très applaudi à la fois par les musiciens et par le public. Je crois que les deux sont conscients des enjeux pour l'avenir de la musique et de la culture en général.
Il est resté syndicaliste jusqu'au bout.
Ah oui, 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 oui. Ça a été vraiment un moment important de cette soirée, puisque, je le redis, il a été acclamé à la fois par le musicien et le public.
Alors apparemment, il a eu un très beau geste aussi pour finir. Il a apporté le bouquet de fleurs à sa mère qui était présente.
À sa mère, exactement, exactement. C'était là aussi très touchant. Et donc, il faut saluer ce genre de geste. Là, c'était un beau moment.
Je vais demander un mot à Hugo et Fabien sur Yves Sapir, parce que ça a été votre camarade pendant de longues années.
C'est quelqu'un qui a toujours été partie prenante pour le bienfait des musiciens et de l'orchestre. Il ne s'est jamais mis en avant, je pense personnellement. Il cherchait toujours à ce que l'orchestre du Capitole soit l'orchestre de tous les Toulousains. C'est quelqu'un qui est très attaché au service public et à la notion de toutes les missions que l'orchestre doit remplir.
Ouais. Il a tout dit, Hugo.
Il a tout dit. Très bien, je dirais pas mieux.
Mais chaque année, on voit des musiciens qui prennent la retraite.
Bien, hein, oui, bien sûr, en renouvellement.
C'est toujours très émouvant parce que ils font partie du décor.
Ce sont des cadres de l'orchestre. Ouais. Donc, effectivement.
Surtout Yves Sapir, je ne sais pas, mais il y a très longtemps qu'il était à l'orchestre.
Je crois 43 ans.
Ouais, 43 ans. Il a fait toute sa carrière.
Il a un socle de l'orchestre important.
C'est pas rien quand des gens comme ça s'en vont. Vous allez bien reprendre une petite sucrerie avant de refermer la partie consacrée à ce concert du 19 décembre. Je vous propose d'écouter La danse des Mirlitons, extrait de Casse-Noisette, dans une version concert de l'Orchestre National du Capitole. Elle était dirigée par Tougan Sokiev. La danse des Mirlitons, extrait de Casse-Noisette, une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Tougan Sokiev. C'était lors d'un concert du Nouvel An, il y a quelques années. Les prochains concerts de l'orchestre sont d'ailleurs ceux du Nouvel An 2025, avec la seule 9e symphonie de Beethoven au programme. Ils ont lieu ces 31 décembre, 1er et 2 janvier, sous la direction de Tarmo Peltokoski. Nous allons en parler en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur le concert que le cycle des grands interprètes a présenté le jeudi 20 décembre Alain Allograin également. La vedette de la soirée était Martha Argerich, une habituée du lieu et de la saison, puisqu'on l'entend à peu près chaque année aux grands interprètes. Elle est venue cette fois-ci avec plusieurs musiciens, un violoniste, une violoncelliste et deux pianistes. Serge va nous rappeler leurs noms parce qu'on a découvert plusieurs d'entre eux à cette occasion. C'était un peu la soirée des premières, magnifiée bien sûr par la présence lumineuse de la grande Martha.
Oui, la grande Martha qui devait venir en fait avec Micha Majewski, un collègue à elle, le violoncelliste qu'elle connaît de longue date, avec lequel elle a beaucoup travaillé, beaucoup joué. Mais Micha Majewski a dû annuler pour des raisons de santé. Et donc, elle est venue avec un violoniste, Teddy Papavrami, un violoniste connu déjà, puis des jeunes, trois jeunes, la violoncelliste Xing Zhao et les pianistes Akane Sakai et Ido Zeef. Donc, des noms que l'on entendait pour la première fois ici à Toulouse. Et alors, la première partie du concert était un peu particulière puisqu'elle était consacrée à Prokofiev, donc, et avec deux œuvres et surtout avec une transcription pour deux pianos de la première symphonie de Prokofiev, la symphonie classique, une transcription réalisée par un compositeur japonais qui s'appelle Ryaku Terashima, à l'intention de Martha Argerich, justement, et donc elle a joué avec la jeune pianiste Akane Sakai, qui a beaucoup de prix. Et alors, on a écouté cette œuvre de manière étrange un peu, puisque la transcription pour deux pianos réduit considérablement le déploiement des couleurs orchestrales, évidemment. En fait, ce qui ressort avant tout de cette exécution, c'est le rythme. Il y a un rythme, vraiment une vigueur des deux pianistes. Et alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin de l'exécution, très applaudie, elles n'avaient pas l'air très satisfaites de leur exécution. Et donc, elles ont repris le mouvement final, alors que ce n'était pas du tout la fin du concert, on était en plein milieu. Et donc là, ça a été quand même plus à l'aise. Et ensuite, toujours dans cette première partie, c'était la sonate pour violon et piano numéro 2 du même Prokofiev, avec Teddy Papavrami, et là, avec un dialogue intense qui s'est échangé entre les deux, et avec surtout ce scherzo diabolique à jouer, et que Teddy Papavrami a joué avec beaucoup de panache. Toute la seconde partie, eh bien, elle s'est ouverte sur ce que je considère comme la grande découverte de la soirée, celle du talent musical impressionnant d'un tout jeune pianiste et transcripteur israélien de 25 ans qui s'appelle Ido Zeef. Je crois que c'est un nom qu'il va falloir retenir puisqu'il a commencé par jouer la sonate fantaisie numéro 2 de Scriabine, qu'il a joué d'ailleurs sans partition. Alors, avec un sens, des nuances, une finesse, une beauté des phrasés, alors là, c'était ahurissant. Hein. J'avoue que là, c'est un des grands moments de ce concert. Et puis alors, il savait comme pas un, pas deux en quelque sorte, ménager ces modulations harmoniques qui caractérisent un peu l'écriture de Scriabine. Hein. Donc c'était vraiment très 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 beau. Et puis ensuite, il a joué alors une transcription de son cru en quelque sorte, hein, puisqu'il a joué une transcription pour piano du Tzigane de Maurice Ravel. Tzigane, c'est violon-piano ou violon-orchestre, mais c'est surtout le violon. Donc. Et là, il n'y avait que le piano. Il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une simple transcription. Je prendrai le parallèle avec les paraphrases que Franz Liszt a composées sur les Lieder de Schubert. Eh bien, c'est un peu ce qu'il a fait là. Il ne s'est pas contenté de transcrire, il a paraphrasé. Alors, avec une imagination musicale sans limite, avec... Ça, c'était paradoxal. Toute la première partie de ce Tzigane est jouée par la seule main gauche. Alors ça évoque évidemment l'œuvre phare pour la main gauche de Maurice Ravel, avec là des pirouettes, mais les plus invraisemblables, qui sont exécutées alors avec une facilité totalement déconcertante. La performance est spectaculaire, mais elle n'est pas que ça. Elle est musicale.
Il faut retenir le nom de...
Ido Zeef. Et puis ensuite, à Martha Argerich et Teddy Papavrami sont venus se joindre la jeune violoncelliste chinoise Xing Zhao et pour le trio, pour piano, violon et violoncelle, de Mendelssohn. Là, vraiment, c'était la perfection du dialogue entre les trois instruments. Et on admire encore Martha Argerich qui, à 83 ans, joue avec une aisance, une facilité.
Elle ne désarme incroyable. Pas.
Ah non, elle est toujours...
Tant qu'elle est accompagnée, parce que seule, ça non.
Mais il y a très longtemps qu'elle refuse de jouer seule. Oui. Mais elle aime bien s'entourer bien de sûr. Jeunes musiciens oui. Et les faire découvrir. Oui. Alors l'ovation du public a été très intense et donc les trois musiciens ont repris le final du trio de Mendelssohn. Et puis alors, paradoxal, un autre bis, les trois pianistes de la soirée, bah, ils se sont serrés, ils ont fait du piano à six mains. Pour offrir une version généreuse, on pourrait dire, d'une étude de Rachmaninov, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais qui n'est évidemment pas écrite pour six mains. Donc c'était joie et bonne humeur pour conclure ce concert.
Et pour illustrer le programme de ce concert, nous allons écouter le début de la sonate pour violon et piano numéro 2 de Prokofiev, interprétée par Martha Argerich et Teddy Papavrami. Le début de la sonate pour violon et piano numéro 2 de Prokofiev, enregistré lors d'un concert de Martha Argerich et Teddy Papavrami, avec qui nous concluons cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de retrouver Serge Chosy et nos deux invités d'honneur, Hugo Blacher et Fabien Dornick, pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec nos invités d'honneur, Hugo Blacher, trompettiste solo de l'Orchestre National du Capitole, et Fabien Dornick, tromboniste basse de notre cher ensemble symphonique toulousain, lundi prochain, le 6 janvier à 20h. Ils donnent le concert Éclat cuivré à Saint-Pierre-des-Cuisines en compagnie de leurs camarades Louis Aunois et Thomas Pesquet. Concert donné dans le cadre de la saison des Clés de Saint-Pierre, dont nous parlons souvent dans cette émission. Et Serge, il y a autre chose dont nous parlons souvent ici, c'est de la qualité des pupitres de cuivre de l'Orchestre du Capitole. Et Dieu sait que c'est fondamental. Absolument. Dans un grand orchestre symphonique.
Ah oui, ça, nous en parlons souvent, et donc nous sommes très heureux de les avoir aujourd'hui avec nous. Ce sont vraiment deux grands musiciens. Hein. N'oublions pas qu'en plus, ils ont une ouverture d'esprit sur toutes les musiques, notamment Hugo Blacher, qui qui a joué quand même du cornet à bouquin, hein, qu'il a travaillé avec Jean-Pierre Cagnac, et puis donc notre ami Fabien Dorny, qui lui joue du trombone évidemment, hein, mais il joue aussi de la sacoboute, qu'il a travaillé avec Daniel Lassalle, tous les deux.
Lorsque vous étiez étudiant au CNSM de Lyon, il me semble, dans sa classe.
Donc, quatre années.
Donc ce sont deux musiciens qu'on estime beaucoup, et on n'en dit pas du bien parce qu'ils sont là, on a toujours dit du bien.
On peut retrouver des émissions où on a dit du bien de Hugo Blacher, de Fabien Dorny et du pupitre de cuivre en général. Oui. Ça, je pense qu'on ne prendra pas en défaut là-dessus. Il y a combien de temps que vous êtes membre de l'orchestre, l'un et l'autre ?
Alors moi, ça va faire une quinzaine d'années maintenant.
2009, votre entrée.
2009, exactement.
Eh ben oui, 15 ans. Bientôt 16. Ben
et moi, depuis 2013. Hein. Je suis le plus vieux du quatuor, mais pas le plus vieux de l'orchestre.
Oui, mais parce que vous avez joué dans beaucoup d'autres orchestres auparavant.
C'est ça.
Vous êtes originaire de la région parisienne, Fabien.
Oui, la région parisienne, oui.
Et vous enseignez le trombone à Toulouse, à l'ISDAT.
Alors, je jouais à l'ISDAT et aussi au conservatoire de Blagnac.
Et vous, Hugo, alors vous, paradoxalement, vous jouez de la trompette, mais vous êtes fils de pianiste.
Oui.
Deux parents pianistes.
Deux parents pianistes et profs de piano, tous les deux. Et j'ai commencé par le piano aussi.
Ah.
Du coup, oui, j'ai commencé par le piano et je suis arrivé à la trompette un peu, j'allais dire naturellement, mais pas vraiment. En fait, c'est ma mère qui a lourdement insisté pour que je fasse de la trompette avec mon parrain, qui n'est autre que Paul Milichère, qui était prof.
Qui était votre maître au conservatoire.
Exactement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai tout naturellement commencé la trompette avec lui et jusqu'à avoir mon prix ici à Toulouse, parce que moi, je suis de la région. Content d'être revenu à 15 ans au Bercail. Et du coup, j'ai suivi mes études, mon cursus à Lyon. C'est là que j'ai rencontré Fabien, d'ailleurs, qu'on s'est échangé les premières fois. Voilà, après, c'est vrai que j'ai eu un léger passage au cornet à bouquin. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon cursus comme Fabien l'a fait, moi. Parce qu'entre-temps, je suis rentré trompette solo à la garde républicaine avant de rentrer ici à Toulouse. Donc, j'ai coupé un petit peu trop tôt sur mes études de cornet, mais j'en garde un très bon souvenir. Donc, évidemment, j'ai connu déjà Jean-Pierre à Toulouse pendant mon cursus de trompette.
Et les Clés de Saint-Pierre, vous faites partie de l'association depuis que vous êtes entré à l'orchestre l'un et l'autre ?
Oui, on a régulièrement participé en quintette de cuivre, en quintette de trombone. On a fait plusieurs, enfin pas de trombone avec Hugo bien sûr, mais plusieurs concerts. Ouais, donc on propose régulièrement des projets. La différence avec le projet de cette année, là, avec le Baccaro, c'est qu'on avait monté l'ensemble avant, on va dire, de présenter ce projet.
Ouais, et il n'a pas été monté pour le projet. Il était préexistant.
Voilà, c'est ça. Souvent, les Clés Saint-Pierre permettent aux musiciens de l'orchestre de proposer des projets qu'on ne fait pas dans la saison. Nous, c'est un peu différent. Sur ce projet, en tout cas, on a monté l'ensemble il y a 2 ans, quand Louise Aunois a rejoint l'orchestre.
Alors, on va parler de vos deux camarades, voilà. Bien sûr. C'est important pour vous de pouvoir jouer en petite formation à l'occasion de cette saison des Clés de Saint-Pierre. Est-ce que c'est une récréation ou c'est quelque chose, un exercice vraiment sérieux et à part entière ?
Alors, c'est un challenge déjà, parce que ces formations-là, déjà, ça demande quand même un grand travail.
Surtout pour les cuivres.
Oui, exactement, surtout pour les cuivres. Et comme vous le disiez, l'avantage, c'est que nous, on n'a pas l'occasion de toucher à ce répertoire de musique de chambre au sein de l'orchestre. Et donc, les Clés de Saint-Pierre permettent ça. Comme dit Fabien, nous, cet ensemble, il a été créé avant. Mais cet ensemble, il s'est créé un peu, je dirais, la base, c'est plutôt Thomas Pesquet, donc notre collègue trompettiste qui a lancé un petit peu
l'initiative.
Plus ou moins l'initiative, parce qu'en fait, lui, cette formation, il l'a connue dans son cursus au CNSM à Lyon. Et donc, il avait une certaine expérience du répertoire, déjà, il avait touché un petit peu, donc il nous a proposé un petit peu tout naturellement avec Fabien et moi, comme on s'entend très bien aussi dans le pupitre, de lancer un peu ce projet. Voilà.
Donc, Baccaro Quartet, déjà, pourquoi ce nom ? Il n'est pas commun.
Fabien, hein, je te laisserai répondre.
C'est pas un nom de compositeur, c'est pas un nom. Pas
on a beaucoup cherché un nom, vous imaginez bien. C'est jamais facile. On s'est un peu inspiré d'ensembles qui prennent des fois le nom de complètement autre chose. Donc, nous, le Baccaro, en fait, il se trouve que c'est un établissement toulousain dans lequel nous allons manger de temps en temps. Et c'est aussi un établissement public, un peu comme l'établissement public du Capitole, mais un établissement public italien dans lequel on peut boire et prendre un apéritif et manger quelque chose.
Voyez-vous ça.
Voilà. On trouvait que ça sonnait bien.
Voilà. Ah, ça sonne très bien, oui.
Bon, on ne va pas creuser ce sujet. Quoique, nous sommes à la veille du réveillon.
C'est ça.
À quelques heures du réveillon, donc pourquoi pas. Donc, deux autres musiciens, évidemment, pour former le quatuor. Vous avez cité Louise Aunois au trombone, elle qui est arrivée très récemment à l'orchestre. Hein.
2022, je crois, ouais, juillet
2022. 2023, même,
ouais,
je crois. Pas titularisé.
Oui, c'est ça. Et donc, Louise, qui est originaire de Lille, hein, du nord de la France, et qui a remplacé Dominique Dehu au poste de trombone solo. Alors, Dominique, lui, est toujours dans l'orchestre, mais il est passé au deuxième trombone.
C'est bien de voir des femmes dans les pupitres de cuivre, ah, parce oui. que c'est pas...
Bah, il y a une trompette très répandue. Hein.
Ouais. De plus en plus, on voit maintenant les femmes dans tous les pupitres, même dans les contrebasses, percussions.
Le trombone, c'est encore rare. Louise, c'est la seule trombone solo dans un orchestre en France.
Ouais. Il
y a aussi une autre jeune femme là, à Montpellier qui est trombone co-solo. Mais c'est vrai que Louise, c'est la seule trombone solo en France.
Et donc Thomas Pesquet, dont vous venez de parler il y a quelques minutes, Hugo, qui n'est pas astronaute, hein, il est bien trompettiste, et lui qui est à l'orchestre depuis pas mal de temps.
Hein. On est rentré la même année, en 2013.
On est rentré en même temps.
Oui, à 6 mois de...
Et lui qui vient de Rouen.
C'est ça.
Exactement. Oui, et je crois qu'il est même cornet solo.
Cornet solo,
exactement.
Oui. À l'orchestre. C'est le cornet solo de l'orchestre, effectivement. Alors, avant que vous nous présentiez le programme et que la cuivrée dans le détail, hein, donc pour ce concert du 6 janvier, nous allons écouter un premier extrait qui va nous permettre de retrouver l'ami Tchaïkovski, encore lui, et son ballet Casse-Noisette. Voici Trépak, la danse russe, dans un arrangement pour ensemble de cuivre. Trépak, la danse russe de Casse-Noisette, dans un arrangement pour ensemble de cuivre. Des extraits du célèbre ballet de Tchaïkovski sont au programme de votre concert avec la cuivrée du lundi 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Comment vous avez procédé pour le construire, ce programme? Est-ce que c'est une réflexion collégiale ou est-ce que c'est essentiellement l'un ou l'une d'entre vous qui l'a conçu dans sa quasi-intégralité? Comment vous fonctionnez?
Non, ça se fait de façon collégiale, effectivement. On est
résolument démocrate.
Exactement, exactement. Non, c'est vrai que ça s'est fait tout naturellement. Bah, déjà, il faut dire que nous, le répertoire pour Quatuor de cuivre, c'est très restreint. Donc, déjà, on essaie de trouver quelque chose qui est audible. ensuite, en le travaillant un petit peu, on essaie de voir si on peut en faire quelque chose. Et des fois, il y a des trouvailles aussi. Et certaines pièces en font partie dans le programme. Et ensuite, bah, on essaie de varier entre des pièces originales, parce que ce qu'on veut promouvoir quand même, c'est le répertoire de cuivre aussi, parce qu'il y en a du bien, il y en a du bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ensuite, bah, essayer de faire un programme varié avec certains arrangements, et aussi montrer un peu tout l'éventail et ce qu'un ensemble comme le nôtre peut faire.
Fabien ?
Oui, bah, c'est vrai que Thomas a beaucoup apporté de musique, parce qu'il avait fait déjà lui un ensemble avec la même formation, c'est-à-dire un trombone ténor, un trombone basse, deux trompettes. Donc il avait une base, on va dire, un peu de répertoire, auquel on cherche un peu chacun.
Ça, c'est intéressant, parce que tes recherches, justement, pour
moi. Oui, c'est assez sympa. Ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, on a quand même des arrangements d'autres instruments, enfin, sur des pièces qui sont écrites pour d'autres instruments, et des arrangements aussi des pièces écrites pour cuivre, déjà.
Mais des fois, avec d'autres...
Avec d'autres instruments
des fois, ça peut être un tuba, moi, je fais des fois des parties de tuba... Louise peut faire des parties de corps aussi au trombone ténor. Des fois, on arrange des arrangements.
Est-ce qu'il y a vos propres arrangements dans certaines pièces, pour certaines pièces?
Non.
On n'a pas ce talent.
Pas encore.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce... Donnez-nous un peu le détail là, du programme.
Alors, le détail, comme on a dit, il y a pas mal de pièces différentes. Si je devais commencer par en présenter une, ce serait celle de Ramsoé, qui est une pièce originale pour Quatuor de cuivre. Et en fait, c'est d'autant plus particulier que Ramsoé était violoniste de base. Donc, c'est assez paradoxal, des violonistes qui écrivent pour les cuivres. Et du coup, ça fait partie d'une des surprises, pour moi en tout cas, du programme, parce que, en plus, c'est plutôt dans la période romantique. Et nous, en tant que cuivre, on a très peu de répertoire romantique.
William Ramsoé, compositeur et chef d'orchestre danois, comme son nom l'indique déjà un petit peu, né en 1837 et mort en 1895, donc pleinement romantique.
Et puis c'est vrai que c'est une pièce, parce que souvent on joue des extraits. Là, c'est vraiment un morceau conçu. Il y a quatre parties, ça dure 20 minutes. Souvent, nous, les morceaux ne sont pas très longs. On joue des extraits qui durent 4-5 minutes. Là, c'est une vraie pièce comme
quartet numéro 4 opus 37.
Comme ça, en quatre mouvements.
Souvent, c'est la difficulté pour nous, les cuivres, de présenter des programmes au Clé de Saint-Pierre, parce qu'un quatuor à cordes va présenter trois quatuors, ça fait un concert. Et nous, souvent, quand on doit monter un programme, c'est à rallonge. On joue 10 pièces, quoi. Donc là, ça, on est quand même content d'avoir une pièce un peu
centrale autour de laquelle vous avez pu construire le programme.
Et en plus, déjà original, parce que pour quatuor de cuivre, et en plus, dans une période du répertoire où on n'a pas grand-chose. Et la pièce est très agréable, je pense, à écouter.
Alors ça aussi, on peut en parler, Serge. Un des grands intérêts, de la saison des Clés de Saint-Pierre, c'est qu'on découvre souvent... Oui. Ou des pièces de compositeurs très connus mais qu'on n'entend jamais, ou carrément des compositeurs qu'on ne connaît pas du tout.
Exactement, ou des transcriptions originales. Et puis le fait que des musiciens d'orchestre fassent de la musique de chambre, je crois que c'est un avantage dans les deux sens. La cohésion que nécessite le travail d'orchestre, on le retrouve dans la musique de chambre, et le détail de la musique de chambre se retrouve lorsque les musiciens jouent à l'orchestre.
Alors, autre pièce qui, je pense, est originale, celle-ci, celle de Edmund Thomas Haynes, un Américain.
Oui, tout à fait.
Très courte, celle-ci.
Oui, très courte. Ça, c'est l'ouverture de notre concert. C'est
une toccata.
Une toccata, exactement. Donc, ouais, américain, écrite pour cuivre aussi. C'est vrai que c'est un compositeur qui n'est pas connu non plus. Pas grand-chose à ajouter, hormis qu'il a écrit quand même pas mal de musique aussi, qui sont très peu jouées. C'est plutôt moderne, type moderne.
Il a peut-être écrit aussi pour de grands ensembles, oui. De cuivre notamment, ouais, des brass bands, des choses comme ça, j'imagine. Et puis, il y a Victor Ewald. Alors, le nom est trompeur, il est russe, lui. Hein,
oui.
Russe. 1860-1935, donc à cheval, beaucoup sur la période romantique.
Encore romantique, tout de même.
Qui a beaucoup composé, semble-t-il, pour les vents et les cuivres, notamment.
Oui. D'ailleurs, on a retrouvé des quintettes après sa mort. Hein. C'est ses enfants qui ont envoyé les partitions. Elles ont été jouées, je crois, justement, en 1974, alors qu'il était mort depuis longtemps. Alors, Victor Ewald, il n'est pas connu, mais en fait, il a été très important parce que. Alors c'était un musicien amateur, mais dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'il pratiquait beaucoup d'instruments, du violoncelle, du cornet, il a fait plein de choses. Il était aussi professeur de génie civil, les musiciens en Russie avaient beaucoup de...
Oui, souvent scientifiques qui étaient à la fois compositeurs.
Borodine était chimiste, je crois.
Ouais.
Il a beaucoup voyagé en Russie, c'est marrant parce qu'on n'en parle jamais, il a quand même beaucoup fait pour faire naître la musique russe. Avant, la musique russe était très inspirée de la musique allemande, et lui, il a beaucoup voyagé en Russie pour recueillir un peu de la musique folklorique de partout. Et après, il a travaillé aussi avec des éditeurs et en tant qu'éditeur pour aider des jeunes compositeurs comme Borodine, Moussorski, des gens comme ça. Donc en fait, il a eu quand même un rôle plus important finalement, son rôle de dénicheur de talent ou d'éditeur que de compositeur. Mais il fait partie de tous les quintettes de cuivre ou quatuors de cuivre jouent du Ewald parce qu'il y a vraiment des pièces écrites pour la formation.
Écrites pour ça, encore une fois, en plus, c'est une période où finalement, nous, on n'a pas trop de répertoire, la période romantique. Et du coup, c'est effectivement un classique, si on peut dire, un peu de notre répertoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont quand même tous les deux dans la période romantique, Ramsoé et Ewald. Et ce qui est drôle, c'est que Ramsoé a fait un passage en Russie. Pendant ses études, il était violoniste dans un orchestre russe, je crois.
Et Glazounov, on joue aussi une pièce de Glazounov, a été mis en avant aussi grâce au travail de Ewald sur l'édition. Il a été pris en main par cet éditeur Belaïev, je crois, en Russie. Donc, il y a un lien.
Donc, d'Ewald, vous allez jouer la symphonie pour cuivre numéro 1, mais seulement le mouvement final.
C'est ça. Mais je crois qu'elle fait partie, déjà, en fait, c'est un arrangement d'un quintet de cuivre.
Vous jouez aussi, donc, une pièce de Glazounov.
Oui.
C'est laquelle?
Une modo religioso.
C'est une pièce originale ou c'est un arrangement?
Je crois que c'est une pièce originale.
Oui, oui. Et très belle pièce, très calme, comme son...
Un peu pieuse.
Après, on a du beaucoup plus connu. On aura le Divertimento numéro 4, KV 439B, Keuchel 439B de Mozart, qui est à l'origine composé, on l'a vérifié, pour cordes basses.
Oui, a priori trio de cordes basses. Et ça, c'est un peu le challenge de jouer du Mozart déjà, par rapport à tout ce qui est phrasé, parce que quand on joue du Mozart, surtout à la trompette, il n'y a pas grand-chose. Au trombone, on a un peu de chance avec le Requiem ou certaines messes où on double les chœurs. Mais c'est vrai que là, au niveau du phrasé, c'est un autre travail pour nous.
Mozart qui est très intéressant. Beaucoup les instruments avant.
Oui.
Beaucoup, beaucoup.
Ouais, bah c'est vrai qu'on disait que le répertoire romantique était pauvre, mais alors le répertoire classique, c'est...
surtout pour la trompette.
À part Haydn pour la trompette, et encore, c'est les tout débuts de la trompette. Ouais. En fait, la trompette à piston n'existait même pas. Et en fait, l'essentiel du répertoire, c'était la trompette baroque à l'époque, donc trompette à trous ou sans trous même. Donc effectivement, ce qu'on a trouvé, c'est cette pièce, un arrangement de cette pièce pour trio à vent. Bon, alors effectivement, c'est peut-être pour trois cordes barcées, mais ce que j'ai vu, moi, c'était quand même joué au basson aussi, à la clarinette. Ouais, et du coup, comme les cuivres, c'est dur, on l'a pas fait pour 3 mais pour 4. Voilà.
Alors, on l'a dit, il y aura donc Tchaïkovski, des extraits de Casse-Noisette.
On a l'ouverture, on a la marche, on a la valse des fleurs, Trépaque, je crois que de tête, c'est ça. Ouais.
Et puis, il y a une pièce d'Astor Piazzolla.
Un arrangement. Oui, alors un arrangement.
Retrato d'Alfredo Gobbi.
Oui, alors en fait, c'est une pièce en hommage à Alfredo Gobbi, Retrato d'Alfredo Gobbi, et cette pièce de Piazzolla a été arrangée par Thierry Kans, qui a été notre professeur à moi et Thomas au CNSM de Lyon.
De Lyon, oui.
Donc c'est lui qui a fait l'arrangement pour 4 cuivres de cette pièce, qui a été ramené par Thomas lors de son cursus au CNSM, et j'avoue que c'était aussi une belle surprise parce que à la première lecture, on s'est quand même demandé si on allait en faire quelque chose. Et finalement, avec le travail, c'est une pièce qui met en avant vraiment tout ce que peut faire, je pense, cette formation de quatuor de cuivre.
Nous allons écouter une autre pièce au programme du concert Éclat cuivré du 6 janvier, le troisième mouvement Scherzo Allegro Vivace du quartet numéro 4 opus 37 de Wilhelm Ramsoe. Le troisième mouvement, Scherzo Allegro Vivace du quartet numéro 4 opus 37 de Wilhelm Ramsoe, pièce au programme du concert Éclat cuivré le 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Est-ce que ce programme présente de réelles difficultés sur le plan technique pour une formation de cuivre de 4 musiciens, je le rappelle, sachant que là on n'a pas trop le droit à l'erreur et que le moindre raté s'entend beaucoup plus chez les cuivres que dans n'importe quel autre pupitre.
Alors je pense que encore une fois c'est un challenge déjà individuel parce que physiquement c'est quand même une prouesse un peu de monter des programmes comme ça à côté de ce qu'on peut faire aussi,
oui,
à l'orchestre.
Parce que c'est très exigeant aussi sur le plan physique, ne l'oublions
pas.
Oui,
c'est très exigeant et c'est aussi beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on le fait aussi, c'est un plaisir, mais c'est beaucoup de travail aussi, de cohésion et de son d'ensemble, etc., qu'on a évidemment dans le travail de l'orchestre, mais exactement, c'est pas le même. Là, c'est vraiment l'équilibre, il faut que ça soit beaucoup plus fin, ressortir les thèmes, et puis il y a aussi une direction musicale à choisir aussi collectivement, etc. Donc c'est tout un chemin, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le travail.
Oui, parce qu'évidemment, le maître mot, c'est quand même le plaisir, hein, aussi bien pour le musicien que pour le public.
Fabien. Oui, c'est sûr que dans le concert de lundi prochain, on va pas, enfin surtout pour les trombones, ça sort complètement de ce qu'on fait à l'orchestre, où on joue souvent des chorales ou des choses très, très fortes, très, très larges. Hein. Le trombone est souvent employé pour ça. Là, c'est pas à l'opposé, mais on va aller sur des choses très articulées, très phrasées, beaucoup plus fines. Il faut aussi qu'on mêle encore plus le son avec les trompettes, ce qui n'est pas forcément au trombone. Bon, on est avec les tubas, les bassons. Là, c'est vraiment trouver un son d'ensemble, déjà entre les deux trombones, les deux trompettes, et tous les quatre. Sur les nuances aussi, c'est plus difficile. Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que sur le travail technique, ça nous change, on va dire, de notre routine de l'orchestre où on joue quand même assez souvent les mêmes choses. On doit être à la fois dans un collectif de quatre, mais des fois ressortir quand on a des...
Et c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi dans le travail, parce que, comme dit Fabien, ça nous change complètement de ce qu'on nous demande de faire à l'orchestre.
Il nous reste assez de temps pour écouter un troisième extrait d'une des pièces au programme du concert Éclat cuivré. Voici par exemple le cinquième mouvement Rondo Allegretto du Divertimento numéro 4 en Do majeur, Köchel 439B de Mozart. Le cinquième mouvement Rondo Allegretto du Divertimento numéro 4 en Do majeur, Köchel 439B de Mozart, l'une des pièces au programme du concert Éclat cuivré que donne le Baccaro Quartet lundi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le compte de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il y a un autre concert dès le lendemain à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi 7 janvier. Encore une fois à 20h, celui du trio Zélia à l'invitation de la saison des Arts Renaissants. Trio Zélia dans lequel on retrouve la jeune violoniste toulousaine Manon Galli, Serge.
Mais oui, en compagnie du violoncelliste Maxime Kenesson et du pianiste Jorge González Bourrasan.
Qui est cubain, voilà. Et qui dans la vie, je peux le dire parce que c'est pas du tout un secret, c'est le compagnon de Manon Galli, et donc ils jouent souvent ensemble.
Ils jouent souvent ensemble en duo, oui, très souvent. Ils ont eu des prix d'ailleurs pour les programmes qu'ils défendent. Alors, c'est donc un concert qui ne comporte que deux œuvres, mais deux œuvres fondamentales, hein, évidemment, du répertoire romantique, avec tout d'abord le trio numéro 1 en si majeur, opus 8, de Johannes Brahms, donc une œuvre de prime jeunesse, hein. Il avait une vingtaine d'années quand il l'a composée, et à l'opposé, l'une des dernières œuvres de Franz Schubert, il faut dire qu'il est mort tellement jeune que c'est une œuvre de jeunesse, c'est son trio numéro 2 en mi bémol majeur, donc voilà, deux grands trios.
L'opus 100.
L'opus 100, oui, Deutsch 929 pour tout indiquer. Voilà, donc c'est...
Deux œuvres importantes que joue ce beau trio, donc qui a déjà pas mal joué ensemble.
Des enregistrements, effectivement. Ils font partie tous les trois de l'écurie Beaussoir Productions, vous savez, créée par Renaud Capuçon, qui soutient de jeunes talents comme ça dans leur début de carrière, même une fois que la carrière est lancée. Et Renaud Capuçon se produit d'ailleurs souvent avec des jeunes comme encore récemment d'ailleurs lors de la saison des grands interprètes. Il était venu avec Guillaume Bellhomme.
Et voilà.
Évidemment, s'il n'y avait pas Maxime Quenesson, voilà. Et on va avoir droit donc à ce premier trio de Brahms, c'est l'opus 100 de Schubert, rendu célèbre évidemment au cinéma par Stanley Kubrick grâce au film Barry Lyndon.
Voilà.
Et Manon Galib, on l'a entendu récemment avec l'orchestre, vous avez joué avec elle, vous l'avez accompagnée en 2022 ou 2023. Elle a été révélation aux Victoires de la Musique Classique en 2022. Et tout récemment, au Festival de Toulouse, pour les 4 saisons avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, où elle s'était produite en juillet dernier. C'était au Théâtre de la Cité. Bon, on va être très heureux de la retrouver, Manon Galib. Alors, même s'il est archi connu, c'est toujours un plaisir d'entendre ce deuxième mouvement Andante con moto du trio numéro 2 opus 100 de Schubert. Le voici dans la version enregistrée par le trio Zelia. Le fameux deuxième mouvement d'Andante con moto du trio numéro 2 opus 100 de Franz Schubert dans la version enregistrée par le trio Zelia, qui se produit donc à Saint-Pierre-des-Cuisines mardi 7 janvier à 20h dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. J'ai gardé pour la fin les concerts les plus proches, les trois que donne l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski pour fêter le nouvel an à la Halle aux Grains ce mardi 31 décembre à 20h, le mercredi 1er janvier à 17h et le jeudi 2 janvier à 20h. Cette année, pas de patchwork plus ou moins festif d'extraits de pièces célèbres, mais une seule et grande œuvre au programme, rien moins que la monumentale 9e symphonie de Ludwig van Beethoven.
Et oui, dont on a fêté en 2024 le 200e anniversaire de la création. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle Tarmo Peltokoski a souhaité donner cette 9e symphonie comme concert du Nouvel An. En plus, c'est un concert qu'il donne en dirigeant évidemment son Orchestre National du Capitole, mais ainsi que le chœur de l'Opéra National, donc du Capitole, et également le chœur de l'Opéra National de Montpellier.
Parce qu'il faut deux chœurs.
Il faut deux chœurs, double chœur. Et donc, cette fois, nous aurons l'orchestre et le double chœur et quatre solistes vocaux, donc qui participent évidemment au quatrième mouvement, donc l'Ode à la joie. Et il s'agira de la soprano Elsa Dreisig, de la mezzo-soprano Tuija Knitile et du ténor Tuomas Katajala, de la basse Albert Domen, qui est le seul que je connaissais, oui, avec Elsa Dreisig.
Qui est allemand. Alors Elsa Dreisig, elle est un peu toulousaine, hein, oui. Pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Son père est toulousain. Et voilà, donc on sera content effectivement de la revoir. Voilà. On l'avait vu il y a quelques années aux Victoires de la musique classique en 2016, qui avait lieu à Toulouse. Et
ah oui,
elle avait
oui,
été
oui.
Révélation artiste lyrique. Voilà. Et bien pour finir en beauté et dans la joie, cette émission et cette année 2024, et donc fêter la nouvelle année 2025, je vous propose d'écouter le final de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie. C'est une version dirigée par Riccardo Muti. Le final de l'hymne à la joie est donc de la symphonie numéro 9 de Beethoven, l'unique œuvre au programme des concerts du Nouvel An que donne l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski à la Halle aux Grains ce mardi 31 décembre à 20h, puis le mercredi 1er janvier à 17h et le jeudi 2 encore à 20h. Alors tout est complet, vous pouvez toujours essayer de réserver, on ne sait jamais, hein, au dernier moment, de réserver, acheter vos places à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Je rappelle que pour le concert Éclat cuivré proposé par les Clés de Saint-Pierre et donné lundi 6 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines par le Baccaro Quartet, dont font partie nos invités Hugo Blacher et Fabien Dornic, les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site de l'association www.lesclésdesaintpierre.org. Et enfin, je resignale le concert du trio Zélia, mardi 7 janvier à 20h, également à Saint-Pierre-des-Cuisines. Dans le cadre de la saison des Arts Renaissants, les trois musiciens vont jouer le trio numéro 1 opus 8 de Brahms et le trio numéro 2 opus 100 de Schubert. Vous pouvez acheter et réserver vos places sur le site www.art-renaissant.fr. Merci à Serge Chosy d'avoir co-animé cette émission à mes côtés et merci à Hugo Blacher et Fabien Dornic d'en avoir été les invités. Je remercie aussi Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous qui nous avez encore écoutés fidèlement aujourd'hui. Bon réveillon et très bonne année en vous souhaitant, entre autres, beaucoup de beaux et grands moments de musique en 2025. À la semaine prochaine.